Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, Thibaut de Chassé au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde, qui s'annonce riche et dense. Voilà. Je vais annoncer d'ailleurs tout de suite le programme, mais qui vient d'être modifié. Un petit coup de théâtre. Mon premier invité, enfin celui qui devait être le premier invité, ne pourra pas venir finalement. Il a eu un problème. Un problème sérieux, donc je ne lui en veux pas et je ne le désigne aucunement à votre vindicte. Voilà, et j'espère pouvoir le recevoir prochainement. C'était Alain Débert, spécialiste d'histoire militaire et notamment de celle des Gaulois. Voilà, je l'avais reçu la dernière fois et j'avais beaucoup apprécié cet entretien. Évidemment, nous n'avions pas pu faire le tour de ce sujet et donc je comptais poursuivre aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise. Voilà, il est l'auteur d'un livre publié chez Ellipse, aux éditions Ellipse, et intitulé « Les armées gauloises et celtiques ». Voilà, donc nous reprendrons notre entretien sur les Gaulois et leur système militaire lors d'une prochaine émission, peut-être plusieurs, nous verrons. Donc nous passerons directement à notre deuxième invité. C'est Guilhem Golfin, philosophe, que j'ai déjà reçu à plusieurs reprises dans cette émission pour parler de philosophie politique et de la question du pouvoir et de l'autorité notamment. Et il viendra cette fois-ci dans le studio pour évoquer l'œuvre de son père, philosophe lui aussi, et en particulier une étude comparant les philosophies politiques d'Aristote et de Confucius, donc un grand écart dans l'espace, mais nous le verrons avec des jonctions et des similitudes étonnantes. Et puis pour finir, nous aurons avec nous Guillaume Bernard, historien du droit et des idées politiques, pour une présentation critique de la pensée de l'allemand Carl Schmitt, un théoricien majeur du droit du XXe siècle, qui a eu une influence considérable et qui est toujours évoqué, évoqué favorablement dans certains milieux voilà, qui se réclament de la droite ou qui sont classés à droite. Est présent avec moi dans le studio le frère Thierry, responsable du cercle Retour au réel, qui mettra peut-être son grain de sel dans les discussions. Bonsoir frère.
Bonsoir chers amis.
Voilà, donc avant de nous lancer dans nos deux thèmes de ce soir, je voudrais vous faire part d'une triste nouvelle. Il s'agit de la mort de mon ami Jean-Baptiste Robert, que vous n'avez jamais entendu, je crois, au cours de cette émission, mais qui a été très souvent là. Pas loin de nous, hein, depuis au moins 8 ou 9 ans, dirais-je. Très souvent là, donc, pour prendre les messages téléphoniques des auditeurs et nous les acheminer ensuite dans le studio. Voilà, il est mort assez soudainement. Il avait des problèmes de santé il y a quelques semaines, à l'âge de 47 ans. C'était un homme qui possédait de belles qualités humaines, très généreux, très sympathique, très sociable. Et c'était aussi un grand lecteur et même un vrai littéraire. Et quelqu'un de sensible, un vrai romantique aussi. C'était parallèlement un homme de conviction politique et religieuse. Vous l'avez bien connu aussi, frère Thierry, notamment oui. Quand nous allions prendre un ou plusieurs verres de l'amitié à l'issue de cette émission avec nos invités pour poursuivre les discussions ou en créer de nouvelles.
C'était quelqu'un de très cultivé pour son âge. Et de nombreux sujets. Alors, culture littéraire. Mais un peu philosophique aussi, un peu.
Et puis voilà, de belles qualités humaines. Il nous manquera, voilà, je voulais lui rendre ce bref hommage à lui qui a été, en plus d'un ami cher, un soutien fidèle et généreux de cette émission. Voilà. Et aussi solliciter vos prières pour le repos de son âme, ainsi que pour sa veuve et ses trois jeunes enfants. Voilà, j'ai signalé que cette émission se déroulait en direct, ce qui signifie que vous pouvez réagir, si vous l'écoutez, ce jeudi 5 mars, en nous faisant part de vos questions ou de vos remarques par le site de la radio ou en envoyant un courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr. Voilà, plus par téléphone, en revanche, jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc en attendant notre ami Guilhem Golfin qui se presse, c'est gentil de sa part, j'espère qu'il ne va pas être trop essoufflé, je vais présenter un peu plus en détail leur thème et puis ce qui m'a stimulé pour pour les recevoir. Tout d'abord, Guilhem Golfin, voilà, j'ai le temps de donner les références tranquillement pour une fois, et non pas au pas de course. Donc, Guilhem Golfin a publié plusieurs livres, hein, aux éditions de L'Homme Nouveau notamment, et puis un plus récemment chez Ora Decima. Et il a aussi fait procéder à la publication d'une œuvre de son père, donc Jean Golfin, philosophe qui a vécu de 1921 à 2017. Mais Guilhem Golfin nous en dira davantage tout à l'heure. Hein. Et Guilhem a fait paraître un inédit. Son père a publié plusieurs ouvrages, mais là, c'est un inédit qui vient de sortir, intitulé Confucius et Aristote. Confucius et Aristote, avec un avant-propos de Guilhem Golfin, et puis des préfaces de Michel Bastide et Gilles Beau-Berthier. Et ce livre est sorti chez Ora Decima. Voilà, il est au prix de 27 euros. Et nous articulerons notre entretien sur ce thème de Confucius et d'Aristote. Voilà, j'ai découvert beaucoup de choses. Je vais devoir revoir certains stéréotypes, hein, c'est toujours pénible. Et puis nous présenterons aussi donc l'œuvre de Jean Golfin. Voilà, n'hésitez pas à faire part de vos remarques, hein, chers auditeurs. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons par téléphone Guillaume Bernard. Ça fait longtemps qu'il n'était pas intervenu dans cette émission et j'avais de très bons souvenirs, hein, de ses passages. Il est bien connu des auditeurs, c'est un historien du droit et un historien des idées politiques. Et j'ai lu de lui un article, voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée de l'inviter, dans une revue intitulée « Le sel de la terre ». Alors c'est le numéro 134, daté de décembre 2025, mais qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une revue épaisse, hein, chaque numéro, là c'est environ 200 pages. Hein. On peut la trouver donc, dans les bonnes librairies, donc, qui ne sont plus très nombreuses, mais enfin bon. Elle est notamment à la librairie française, à Paris 15e, 202 rue Lecourbe. Vous pouvez retrouver les informations de... comment dire, les horaires de la librairie sur son site internet, librairiefrançaise en un seul mot, .fr. Voilà, Paris 15e, il y a cette revue, et puis d'autres bons livres, très nombreux. Alors c'est un numéro là, du sel de la terre, qui est consacré, comment dire...
à la nouvelle droite.
Oui, à la nouvelle droite. Donc ce courant d'idées... qui est apparu dans les années 70, probablement bien connu des auditeurs réguliers de Radio Courtoisie. Alors, c'est une approche critique, hein, puisque c'est une revue, là, Le sel de la terre, une revue intellectuelle dirigée par les Dominicains d'Avrier, une revue catholique, donc traditionnelle, traditionnaliste, comme on voudra. Donc, c'est une approche critique, le ton peut être polémique, mais enfin... Je n'ai pas encore tout lu, hein, mais j'ai trouvé un certain nombre de choses intéressantes. Voilà, il y a de la matière, voilà, pour réfléchir et exercer son esprit critique. Et donc, il y a un article de Guillaume Bernard consacré à la pensée politico-juridique de Carl Schmitt. Il en fait une critique intéressante et une belle présentation. Voilà, c'est une critique mesurée. Hein. Et puis, parmi d'autres articles, j'ai retenu... une bonne synthèse sur Nietzsche, qui est assez prisé, hein, donc parfois dans les milieux dits de droite, bon, contre lequel il faut quand même mettre en garde, hein, globalement.
J'ai trouvé assez négatif l'article.
Ah ben oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Enfin bon, et des faits, c'est une critique intéressante. Hein. Vous préféreriez peut-être le livre de Gustave Thibon, philosophe que vous aimez beaucoup.
C'est une lecture de Nietzsche, une lecture chrétienne de Nietzsche. Parce que Thibon avait une philosophie apophatique.
Ouais. Bon, écoutez, voilà, non, je ne vais pas vous lire tout le sommaire, mais c'est intéressant. Il y a des questions philosophiques, historiques, religieuses. Voilà. Donc ça, ce sera tout à l'heure en deuxième partie pour Carl Schmitt. Je salue Guilhem Golfin qui vient de nous rejoindre dans le studio et nous allons pouvoir donc, nous pencher sur ce livre, paru tout récemment. et qui compare les pensées, en particulier dans le domaine de la philosophie politique ou sociale, d'Aristote et de Confucius. Nous allons représenter peut-être brièvement ce dernier tout à l'heure, parce qu'il est moins connu généralement dans nos milieux qu'Aristote, évidemment. Voilà, n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous le souhaitez, à faire part de vos questions ou de vos remarques par les moyens que je vous ai indiqués il y a un instant et que je vous redonnerai tout à l'heure. Voilà, j'essaie de me retrouver dans mes notes. Merci d'être avec nous, Guilhem Golfin.
Merci à vous de m'avoir invité, Thibault.
Alors, nous avons un peu plus de temps que prévu, tant mieux. Il y a deux choses qu'il faut que nous voyons ensemble. La première, c'est présenter un peu l'auteur, qui n'est plus parmi nous, Jean Golfin, et puis ensuite, et son œuvre globalement, et puis après, en particulier, cet ouvrage-ci. Voilà. Voulez-vous nous présenter brièvement Jean Golfin ?
Alors, brièvement, je vais essayer d'être bref. C'est toujours possible, mais il y aurait de quoi dire. Oui. Donc déjà, mon père, il est né en 1921 à Béziers, donc dans l'Hérault. Et il est décédé en 2017. À 96 ans, juste, il venait de les avoir depuis quelques semaines. Il a eu une vie assez remplie, on va dire, puisqu'il passe donc le baccalauréat à l'été 1939. Ouais. Alors à l'époque, on pouvait passer, il y avait deux baccalauréats, le mathélème, comme on disait, et le bac de philosophie. Donc il a passé mathélème, donc c'est en gros le bac scientifique de l'époque en juin, et puis sous les conseils de ses professeurs, il a remis ça moyennant quelques épreuves supplémentaires en septembre pour le bac de philosophie, et juste au moment de la déclaration de guerre. Donc il a pu le passer quand même. Il n'avait pas encore 18 ans, il avait 17 ans, donc il n'a bien sûr pas été mobilisé, puisqu'il ne mobilisait, je pense, pas en dessous de 21 ou 20 ans, je ne sais pas où juste, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas été. Donc ceci étant, il attendait d'être mobilisé, donc il ne l'a pas été. Donc il est resté un an après le bac à attendre un petit peu, enfin moi, à Béziers. Et ensuite de quoi, en juin 40, nous savons ce qui s'est passé. Donc il a bien compris qu'il ne serait pas mobilisé, puisque donc, la défaite était intervenue. Et donc là, il a commencé des études supérieures en droit à Montpellier. Et en parallèle, donc, il a aussi préparé des concours d'entrée à l'école coloniale. Alors, c'est un point qui peut paraître anecdotique, qui en soi l'est, sauf que ça va quand même sans doute décider d'une bonne part de la suite, étant entendu que dans le cadre des cours de préparation à l'école coloniale, au concours de l'école coloniale, il a eu les cours d'un géographe, alors qu'il n'est peut-être plus très connu de nos jours, en tout cas en dehors du milieu des géographes, qui était Pierre Gouroux, et qui a quand même fini au Collège de France avec la chaire sur les pays tropicaux. Donc, il était un géographe spécialiste des milieux tropicaux. À cette époque-là, à l'école française d'Extrême-Orient, donc il avait fait sa thèse sur les paysans du delta du Tonkin, enfin, c'est vraiment très, très particulier. Mmh. Donc, il avait été rapatrié à cause de la déclaration de guerre et un peu parachuté, parce qu'il fallait lui trouver une place un petit peu au dernier moment, ce n'était pas du tout prévu, à Montpellier. Et mon père a bénéficié de ses cours. Et il a toujours eu une immense respect, une immense reconnaissance pour Pierre Gouroux, qui l'a manifestement introduit à la Chine. Donc ça va rejaillir plus tard, mais il y a une pierre d'attente qui a été posée et qui va donner des fruits plus tard. Donc il termine pas en fait ses études de droit. Mon père, il avance un petit peu, il aurait pu attendre un peu plus, mais il devance un petit peu l'appel pour ce qui n'était plus le service national, mais les chantiers de jeunesse, qui remplaçaient donc sous le gouvernement de Vichy le service national qui avait été interdit par les Allemands. Donc là, il va faire le chantier de jeunesse pendant j'ai plus ça précisément en tête, mais sur une bonne année. Alors là, pour l'anecdote amusante, il s'est rencontré, donc c'était au Vigan, donc au nord de Nîmes, et il s'est rencontré avec Bobby Lapointe, le chanteur Bobby Lapointe, donc ouais. Avec qui il a fait de la musique. Voilà, ouais. Parce qu'il joue du violon, mon père, donc il a joué du violon avec Bobby Lapointe dans ce cadre-là. Bon,
c'est, oui, d'accord.
Des anecdotes familiales assez amusantes, voilà. Ah, oui. C'est un personnage assez en couleur. Et en fait, il a plus tard écrit un récit sur la période de guerre, mon père. Donc malheureusement, il a achevé, mais qui quand même couvre une bonne partie. Et donc il y a quelques anecdotes autour de Bobby Lapointe qui sont assez amusantes. Ensuite de quoi, démobiliser des chantiers de jeunesse quand il a fini son temps, en fait, il a été envoyé en Allemagne. Donc là, sans même, c'est un peu curieux, j'ai jamais trop creusé ça, mais il n'a pas vraiment été comment dire, enrôlé dans les chaussées de jeunesse, parce que là, normalement, c'était quand même officiel. Enfin, là, il a été mis dans un train en partance pour l'Allemagne. Bon, il est allé. Et donc, il a été envoyé donc, en usine à Chemnitz, donc, qui deviendra après sous les communistes Karl Machat, puisqu'il est redevenu Chemnitz à la chute du mur de Berlin. Donc, c'est en Saxe, pas très loin de Leipzig. Et donc là, il va passer, il arrive tout début 43, et il va y rester jusqu'à la fin de la guerre. Il s'en va au moment où c'est la débandade, je crois en février ou mars 45. Donc il s'enfuit avec un ami, et puis quelques péripéties, et ils finissent par arriver à rejoindre le front américain, et donc être rapatrié en France. Voilà, donc ça c'est autre chose importante aussi quand même, parce que c'est la première découverte d'un pays étranger, dans un contexte bien sûr très particulier. Tout ceci, ça l'a donné du temps pour réfléchir et rentrant en France, bon, il y a un an qui passe, et en mars 46, il rentre au noviciat des Dominicains de la province de Toulouse, donc du sud de la France, donc à Saint-Maximin, donc qui était à l'époque bien sûr toujours en activité, qui sera fermé quelques 10 ans plus tard, hein, enfin 57. Le couvent sera fermé sur du maître de l'ordre et sera ouvert le grand couvent que les frères ont toujours à Toulouse. Mais donc lui a fait vraiment toutes ses études donc à Saint-Maximin et c'est vraiment à l'école du père Labaudette. Donc grande figure quand même de la vie dominicaine au XXe siècle. Et qui va vraiment faire toute sa formation intellectuelle. Donc, il a eu une petite formation, bien sûr, en droit, mais il n'a pas poussé très loin, puisqu'il n'a pas poussé les études jusqu'au bout. Et vraiment, sa formation intellectuelle, c'est à l'école d'Aristote de Saint-Thomas, auprès donc, du père Labaudette et puis des pères enseignants de la province de Toulouse. Donc là, il lui-même se rend plus tard enseignant dans ce cadre-là. Il va y écrire dans la revue Thomiste, il aura la responsabilité de la chronique de philosophie politique pendant quelques temps à la revue Thomiste. Voilà.
Un vrai Thomiste.
Voilà, donc il a vraiment été formé à cette école-là. Comme vraiment. Ensuite de quoi, c'est pas fini, son histoire.
Enfin, je précise pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien, un vrai Thomiste, donc aristotélicien aussi.
Voilà, donc aristotélicien, tout à fait. Oui. Et c'est vrai que mon père, enfin, il est Thomiste aussi, mais il est aussi très aristotélicien. Ça veut dire parfois il y a des nuances aussi. Et donc, il serait que lui a été beaucoup marqué par la pensée grecque. Il a aussi beaucoup travaillé Platon, mais il le dit dans ses récits. Au début, il aurait plutôt été un peu platonicien, mais avant de rentrer chez les frères. Mais vraiment, l'école chez les frères vraiment a vraiment ancré l'aristotélisme. Vraiment. Et ça, c'est extrêmement important, en effet, pour là aussi, sa manière dont il va aborder l'Orient. Alors, étant frère, il a été envoyé en Amérique latine, et là, je passe les détails parce que bon, il y aurait quelques éléments, mais c'est pas essentiel. En fait, il va être contacté par les services de renseignement français, étant donné qu'il avait écrit un petit texte que je pense nous n'avons pas dans les archives, enfin, je pense pas l'avoir, sur une comparaison des conceptions en stratégie de Mao. Et d'un stratège anglais qui avait publié un ouvrage quelques années, enfin dans ces années-là, qui était Little Art, bon, qui aujourd'hui est un petit peu oublié, enfin connu des militaires, mais bon, pas du grand public, mais à l'époque ça a été un petit peu connu. Et donc ça l'avait intéressé, ça je ne saurais pas trop dire pourquoi, enfin ça c'est, j'ai pas trop les éléments. Et donc ça s'est écrit un petit peu circulé et. Voilà, ben, ça a intéressé une personne qui va faire en fait un peu le lien et qui va lui dire, ben, quand vous rentrez en France, donc là il était, pardon, j'ai oublié de le dire, il était à Montevideo, excusez-moi, j'ai oublié de dire ça, vous voyez, donc à Montevideo, donc en Uruguay, parce qu'il y avait un accord entre la province de Toulouse et la province d'Uruguay, donc pour encadrer les formations des frères donc uruguayens, dans ce cadre-là qu'il a été envoyé. Et donc voilà, ce contact s'est fait. Au retour, donc il est recontacté. Il va donner des conférences dans un cercle qui avait été organisé par Pinet, en fait, pour les parlementaires catholiques ou chrétiens plus largement. Je ne sais plus si ça inclut les protestants, enfin, en tout cas, c'est au moins pour les catholiques. Et donc, ils avaient besoin de conférenciers et mon père donc, a fait des conférences. Et en fait, d'après ce qu'il m'a dit, c'est Antoine Pinet qui lui a demandé de travailler sur la Chine. Et donc là, il va être, tout en étant encore frère, donc il est recruté comme bon, dire, agent de renseignement, si on veut. Enfin, c'est-à-dire qu'il va se rendre dès 1964, premier voyage donc, en Chine, surtout Hong Kong, Singapour, c'est encore complexe, bien sûr. Rappelons que Mao prend définitivement le pouvoir en 1949, hein, à la fin de la guerre civile, donc il chasse Chiang Kai-shek, les nationalistes, sur Taïwan.
Se réfugie à Taïwan.
Qui se réfugie à Taïwan, c'est en 49. Hein. Donc là, donc à ce moment-là, tous les missionnaires catholiques ont été expulsés. Donc ça, c'était important parce que pour le voyage, mon père a essayé de retrouver ceux qui étaient restés en Asie. Alors, tous n'étaient pas restés en Asie, mais certains étaient restés pour essayer d'avoir un petit peu des informations. Le contexte aussi à rappeler, c'est que la France, le pouvoir gaulliste, a été le premier à reconnaître diplomatiquement la Chine de Mao.
Ouais.
Donc c'est le moment où la Chine n'a pas encore la voix, le siège permanent à l'ONU, au Conseil de sécurité, c'est encore Taïwan. Et le changement se fera, je ne sais plus en quelle année, mais ce sera un peu après. Voilà. Il y a vraiment tout un contexte politique d'un pays donc, qui est encore bien sûr très lointain. Même si les transports à l'époque, bon, ça s'est amélioré, mais enfin, ça reste quand même lointain. Et puis, bien sûr, tous les bouleversements. Et il n'y a plus de personnes sur place, donc on veut avoir des renseignements. Et voilà, donc il va rentrer dans cette logique-là, bon, qui a consisté à faire en effet un certain nombre de voyages, et puis surtout à recevoir beaucoup de publications. En chinois certaines, en français peu, mais certaines quand même, en anglais beaucoup, et donc à faire après, pour dire de synthèse, des rapports.
Ouais.
Voilà. Donc ça, il va faire ça en fait jusqu'à à peu près au milieu des années 90, hein, donc à peu près une trentaine d'années. Donc là, il est encore chez les frères. Alors ensuite, c'est le moment, tout ça coïncide avec la grande crise dans l'église, et donc mon père va être pris là-dedans, et bon, là, il y a des raisons propres, générales et puis personnelles qui font qu'il va en effet quitter donc, l'ordre. Il est réduit à état laïque, comme on dit techniquement.
C'est la fin des années 60. Donc
quitte l'ordre officiellement, je ne sais même pas comment on dit, quand on quitte l'ordre, il doit y avoir un terme. Il est relevé de ses voeux, voilà, c'est ça. Voilà, exactement.
C'est en pleine tourmente post-conciliaire.
Complètement.
L'espéré printemps de l'Église tourne au...
Voilà.
À la tempête.
Commence à tourner à la tempête, en effet.
Au chaos.
Et donc, ça, c'est vraiment en 69. Donc, il est vraiment en retour donc, à la vie civile, non religieuse. Donc, là, il va se marier. Mes frères arrivent. Et puis, moi, j'arrive un peu plus tard, quelques années plus tard. Voilà. Donc, là, il va continuer à travailler là, sur la Chine. Donc, toujours pour le gouvernement. Et puis aussi, il va être quelques années après. On va lui demander d'assurer un cours sur l'histoire de la Chine à l'Université de Toulouse, l'Université de Lettres. Aujourd'hui, il s'appelle l'Université Jean Jaurès. À l'époque, c'était le Mirail. Voilà. Et donc, il va faire ça pendant peut-être à peu près 8 ans. Au régime examen, il va continuer à ce qu'on appelle l'Université du temps libre en examen. Et puis, bon, il continuera en cours privé jusqu'au début des années 2000, où il arrêtera son cours. Et donc là, il va étudier la Chine, et puis au-delà, tout ça, ce sont des cours qu'il a publiés à compte d'auteur, mais qu'on trouve à la BNF, donc il y a eu un dépôt légal. Cours sur la Chine, sur le Japon, sur le Tibet, il a continué sur l'Inde aussi, parce que les étudiants l'avaient demandé, et j'étais un petit peu intéressé à cause du bouddhisme, bien sûr, si on veut comprendre le bouddhisme... il faut quand même remonter à l'origine, bien sûr, l'origine c'est en Inde. Il s'était un petit peu remis dans les années 90 à l'étude de l'Inde. Voilà, donc il a vraiment une connaissance quand même assez ample de l'Orient. Dernière chose, il n'a pas écrit ou presque pas sur ce pays, mais qui était l'un de ceux qui vraiment lui était le plus cher, qui est la Corée. Il a aussi donc, étudié le coréen, il a traduit du coréen. Il publiait donc un écrit, un journal intime d'un séminariste coréen qui malheureusement s'est tué en montagne, qui faisait son séminaire à Innsbruck en Autriche et puis qui s'est tué dans un accident de montagne alors qu'il n'était pas encore, il allait être ordonné. Et donc son journal a été très connu en Corée, donc mon père en a eu vent et donc il l'a fait traduire, enfin, il a participé à la traduction avec d'autres, il y a plusieurs, après des romans coréens, voilà. Donc, je ne sais pas si les détails. Mais donc il avait une ampleur quand même assez grande sur l'Orient. Et donc on arrive à une œuvre qui a cette originalité quand même d'être vraiment à deux volets majeurs, c'est-à-dire vraiment la pensée occidentale. De structure, il faut dire, aristotélico-thomiste, mais qui aussi il a une connaissance quand même assez approfondie de la pensée moderne. Il a écrit donc dessus, au moins des articles, et il a fait des cours, notamment sur le marxisme, parce que c'était quand même l'époque aussi. Il se confrontait avec la question des sciences sociales, du marxisme, donc tout ça au début des années 60. Avant le commencement de l'étude de la Chine, il a vraiment travaillé quand même sur ça. Donc il a une très bonne connaissance donc, de la pensée grecque médiévale, en tout cas de Saint Thomas. Voilà, il n'a pas forcément une connaissance complète de la pensée médiévale, mais en tout cas de Saint-Thomas, oui. Et puis, donc de la pensée moderne, disons assez classique, en tout cas, hein, jusqu'au Sartre, bon, qui bien sûr est une, la grande référence de l'époque, en tout cas en France, hein, pour prendre quelques jalons. Et puis, bien entendu, donc tout l'Orient. Et donc, il y a une œuvre qui est à deux volets, qui, je pense, en tout cas en France, me semble, de ce point de vue-là, assez unique. Voilà, je ne jurerais pas qu'il est absolument le seul, mais enfin, en tout cas, que je connaisse moi, qui est cette double formation vraiment pensée philosophique occidentale et théologique aussi quand même, hein, puisque sa thèse, la seule thèse qu'il a faite, au milieu de tout ça, c'est en théologie, c'est même pas en philosophie. Ah, oui. Il a fait une thèse en théologie sur la vie contemplative, texte que je n'ai pas encore lu, mais que nous avons le texte. Je verrai si un jour c'est publiable, je ne sais pas, ça, je n'ai pas encore... j'ai pas encore lu le texte, donc je peux pas le dire. Mais en tout cas, voilà, c'était la thèse qu'il a faite, donc le diplôme, le plus grand diplôme qu'il a eu, c'était en fait en théologie. Et pas en philosophie même.
Oui.
Ah, bon, un peu un paradoxe. Oui. Parce que c'est vrai qu'il est plus philosophe que théologien. Au sens, en tout cas, de théologien religieux, j'entends. Hein. Et c'est vrai qu'il a davantage l'esprit, si on peut dire, la forme d'esprit philosophique.
Oui. Et alors, cet ouvrage que je tiens entre les mains, là, justement, c'est la jonction de ces deux grands volets d'études que vous aviez évoqués. Donc là, voilà. C'est vraiment une plus-value, un spécialiste, la rencontre entre...
Tout à fait. Alors cet ouvrage-là, alors il faut préciser, là, par rapport à son œuvre, première chose quand même qu'il faut préciser, c'est qu'il a lui-même très peu publié. Donc à part ses cours à compte d'auteur, bon, il y a quand même un certain nombre de volumes, sinon il n'a en fait publié... en dehors des traductions du Coran, ça c'est quand même à part, de lui-même, en fait, que trois ouvrages. Un quatrième avait été publié en 2012, un peu j'avais réussi à le faire publier. À l'époque, lui, il avait essayé, mais ça n'avait pas réussi. Là, c'est un ouvrage aussi un petit peu particulier, mais qui est très intéressant, qui est là, une biographie un peu romancée, parce que la documentation est restreinte, du premier évêque franciscain de Pékin, donc au fin 13e, début 14e siècle, donc un Italien, Jean de Monte Corvino. Donc il a écrit sur ça, donc ça a été publié en 2012 au CERF. Mais sinon, il n'avait publié qu'un ouvrage donc, sur Mao, un ouvrage de sociologie, donc dans une collection de privats, des éditions privats, les 50 mots-clés, donc c'était les 50 mots-clés de la sociologie. Et puis, ce qui reste quand même son œuvre, en tout cas sur la Chine majeure, hein, un gros ouvrage aux éditions complexes sur la Chine et ses populations. Donc là aussi, c'était une collection des éditions complexes qui, à l'époque, étaient encore belges. Après, elles ont été rachetées et devenues françaises. Elles sont devenues françaises, mais à l'époque, c'était... le fondateur encore. Et donc, il y avait une collection, voilà, un pays et ses populations. Donc, lui, il avait fait l'ouvrage sur la Chine. Et donc, là, ça a fait un gros volume parce que sur la Chine, il y a beaucoup de populations différentes. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup à dire. Mais en dehors de ça, donc, il n'a rien publié. Et il a beaucoup écrit. Et donc, quand j'ai commencé à ouvrir les cartons, il était encore de ce monde à ce moment-là. Bonjour, j'ai ouvert les armoires et j'ai ouvert les cartons. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, en effet, beaucoup de choses. Et au milieu de ces cartons a surgi, si je puis ainsi dire, un ouvrage dont je n'avais aucun souvenir. Il a écrit en 1988, donc j'avais 14 ans. J'aurais pu m'en souvenir, mais je n'en avais gardé aucun souvenir, qui était donc précisément Confucius et Aristote. Alors qui s'est imposé aussitôt, parce que précisément c'est une porte d'entrée dans son œuvre, dans la mesure où donc, il s'agit d'une comparaison Orient-Occident. Donc l'ouvrage est complet, donc il n'y avait pas d'obstacle à la publication de ce point de vue-là, et ça m'a semblé tout de suite extrêmement intéressant. Je pense que le texte en effet en lui-même est intéressant à plusieurs titres, mais c'était aussi bien sûr pour introduire donc à son œuvre et à sa pensée, je pense l'ouvrage le meilleur qu'on pouvait trouver.
D'accord, oui, très bien. Alors, je précise aussi, avant d'oublier, tant que nous avons le temps, que vous avez lancé une campagne de financement pour éditer ou rééditer des livres de Jean Golf.
Précisons, donc là, d'abord, il faut quand même que je remercie Philippe Maxence donc des éditions Radicima, puisque donc il m'a fait confiance pour créer donc cette collection qu'on a appelée Jean Golfin Écrit et Réflexion, donc, qui est vraiment dédiée exclusivement à la publication donc de ses œuvres. Donc, qui comprendront une partie sur l'Orient, en effet, et une partie sur la pensée, disons, plus on va dire occidentale, pour le dire ainsi, avec des thématiques du reste assez diverses. Donc un autre ouvrage est déposé chez l'éditeur à nouveau sur la Chine, d'autres sont prévus, et puis bon, il y a tout un travail qui se fait. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, donc, j'ai fait récemment une petite campagne de financement qui reste enfin, à un niveau assez modeste, mais qui nous serait déjà suffisant pour bien avancer dans le travail. Donc c'est au site Credo Funding, qui est un peu le principe du crowdfunding version, disons, catholique.
Credo Funding.
Voilà, credofunding.fr.
FUNDING, voilà. Et puis voilà. Quand on est dessus, on tape Jean Gaulfin.
Voilà, enfin, voilà. Et ça peut se retrouver parmi tous les projets. Donc c'est vrai qu'on a déjà un certain nombre de dons. La campagne n'est pas achevée. On n'a pas atteint complètement les objectifs. Si certains auditeurs veulent faire un don, ça sera accueilli avec grande reconnaissance. Ça nous sert principalement, en fait, à financer toute la saisie et la correction des textes, surtout la saisie, puisque alors ça c'est encore un autre aspect, mais donc sa production s'est étalée sur à peu près 50 ans, hein, à peu près une bonne quarantaine d'années, oui, 50 ans. Ouais. Donc les derniers textes c'était sur ordinateur, donc là il n'y a pas de gros problème. Avant ça c'était machine à écrire, et donc là ça suppose traitement quand même un peu. Et puis surtout avant c'est à la main. Et alors à la main, là, c'est vraiment une saisie manuelle parce que c'est écrit très fin. Voilà. Donc, ouais. Et ça, c'est tout à fait faisable, mais ça a bien sûr un coût. Donc j'ai une personne qui s'en charge, hein, enfin, à qui je peux demander, mais que je dois rémunérer, bien entendu. Et donc la campagne de financement est destinée principalement à rémunérer ce travail.
Bon, très bien. Voilà. L'appel est passé. Je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, diffusé en direct ce jeudi 5 mars 2026. Et je reçois Guilhem Golfin à propos du livre écrit par son père, Jean Golfin, intitulé « Confucius et Aristote ». Alors rentrons maintenant dans le thème, si vous voulez bien. Quels sont les grands enjeux que vous voyez autour de cette œuvre ?
Alors, outre, je ne vais pas y revenir, donc le fait que ça introduit à la pensée de mon père, il y a bien entendu des intérêts, disons, plus objectifs, on va dire. Je crois qu'il y en a principalement deux. Pour en tout cas, disons, un lecteur occidental que nous sommes. D'une part, dans l'ouvrage est en effet une comparaison de la pensée de Confucius et de celle d'Aristote, précisons juste de la pensée pratique d'Aristote, puisque bien entendu, Aristote a une œuvre qui déborde
très largement universelle.
La seule pensée pratique. Même si, bien sûr, la part pratique de la pensée d'Aristote est fondamentale. Donc, c'est bien sûr de celle-là dont il est question exclusivement dans ce livre, puisque, bien sûr, Confucius, de son côté, est un penseur pratique, un penseur moral, enfin, de la morale et de la politique, et n'a pas, bien entendu, la dimension scientifique, métaphysique qu'a par ailleurs Aristote. Donc là, la comparaison, bien sûr, se fait sur ce qui est comparable, la partie donc morale et politique. Et de ce point de vue-là, un des intérêts, je crois, de l'ouvrage, enfin, ce que s'efforce vraiment de mettre en avant donc, mon père, c'est le fait, il le dit dans une formule qui est peut-être un petit peu osée, mais que sur l'essentiel, Aristote et Confucius, ils pensent et ils disent la même chose. Ce qui, bien entendu, peut apparaître un peu provocateur, et ce n'est pas interdit de penser que ça l'est un petit peu, bien sûr, parce que forcément, le style, le contexte, bien entendu, historique, le contexte, bien sûr, culturel, le style des écrits sont complètement, bien sûr, différents. Mais ce que s'efforce en effet de montrer l'ouvrage, c'est qu'à travers toutes ces différences, se dégage quand même ce qu'on pourrait appeler des invariants du politique. Et que, on pourrait dire, tout comme il y a une nature humaine qui est une et la même, indépendamment de la culture, même si, bien entendu, elle va s'exprimer aussitôt sous des formes diverses, donc selon les peuples, selon les cultures, selon, bien sûr, les moments historiques. Mais néanmoins, on peut affirmer quand même qu'il y a une nature commune. Et bien, de même, par mode d'analogie, la politique comme art de gouverner les peuples, a, disons, certaines règles, certaines lois, ou obéit à une certaine, on pourrait dire, nature, au sens... utilisant le terme des philosophes grecs, une certaine essence, et qui en fait se conserve sous des latitudes et sous des cultures différentes. Et donc on retrouve en effet un certain nombre de points communs sur la finalité de la politique, la finalité morale de la politique, donc le fait que la politique a pour fin la perfection donc, de l'homme, la perfection morale de l'homme, pas la perfection technique, la perfection morale de l'homme, et qu'elle doit se soumettre justement à les techniques. Donc elle a, dans le vocabulaire d'Aristote, une dimension architectonique, c'est-à-dire qu'elle doit régler en effet l'ensemble des activités, et notamment en effet utiliser tout ce qui est dans la technique, mais ce n'est pas la technique qui doit gouverner, mais elle doit au contraire être utilisée, bon, par exemple. On va retrouver, bien entendu, certaines conceptions, on va dire, du gouvernant comme étant au service de la communauté politique, donc la politique comme service, en effet, du peuple, et non pas, bien entendu, comme étant à son propre service, donc ce qui, là encore, dans les termes grecs, fait aussitôt signe vers la tyrannie, donc le tyran, c'est celui qui... au contraire, une conception utilitaire de la politique et se sert de la cité pour des fins qui lui sont personnelles et qui lui sont propres, et renverse par conséquent la finalité, ce qui fait dire à Aristote que la tyrannie n'est pas à proprement parler politique. Bien sûr, elle est au sens où on est dans le cadre politique, on est dans une forme de gouvernement, mais elle ne l'est pas à proprement parler puisqu'elle ne respecte pas la finalité politique. Et c'est la fin qui définit, qui sert à définir des choses chez Aristote. Et donc, celui qui trahit la fin du gouvernement, quelque part, il s'exclut du cadre politique au sens strict du terme. Formulé de manière très différente, on retrouverait des idées très proches, analogues, voire identiques, en effet, chez Confucius. On aurait aussi, par exemple, une certaine quand même, confiance, en effet, dans l'homme, confiance qui n'est pas de la naïveté, ni l'un ni l'autre, ni Aristote ni Confucius ne sont des naïfs. Ils savent très bien que le cœur de l'homme est quand même tortueux. Bien entendu, ils n'ont pas l'éclairage que donne sur ça la foi chrétienne, donc qui va sans doute approfondir ce type de réflexion, de considération. Mais néanmoins, il y a quand même, bien sûr, une certaine perception du mal qu'il y a en l'homme. Donc il n'y a pas de naïveté, mais il y a quand même cette idée qu'il y a une certaine bonté de l'homme, que l'homme peut accomplir le bien, peut être vertueux, et que précisément, l'office de la politique, c'est de pousser à la vertu. Il y a encore, je dis ça un petit peu dans le désordre, c'est pas forcément, je ne suis pas forcément un ordre très, très, très précis, mais cette idée que la politique est un certain accomplissement, en effet, donc dans le vocabulaire d'Aristote, la cité, la communauté politique et la communauté parfaite, c'est-à-dire non pas qu'elle soit dénuée de défauts concrètement, mais qu'elle correspond à la structure la plus entière, la plus complète, celle qui permet justement l'épanouissement le plus grand, le perfectionnement le plus grand possible de l'homme. De ce point de vue-là...
Suffisante, autosuffisante.
Voilà, exactement, j'allais venir, là, vous m'avez devancé, non, mais c'est très bien. Donc cette caractéristique, en effet, autarcique, de cette autosuffisance, qui est, dans le vocabulaire d'Aristote, une autarcie, pour ainsi dire, complète, bien entendu, il n'y a pas une autarcie absolue, Aristote, c'est très bien, on a besoin de commercer, on a besoin... Une société ne peut pas tout produire elle-même, ne peut pas tout faire par elle-même, mais il y a quand même une autarcie forte, qui définit en effet la cité pour un Aristote, avec cette idée justement que ça fait aussi la liberté, bien sûr, politique du peuple. Et donc là aussi, on trouverait des conceptions, disons, très proches, analogues, vraiment donc chez Confucius. Alors bien entendu, dit de manière complètement différente, les entretiens de Confucius, c'est le seul écrit que nous avons qui n'est pas de lui, qui des disciples qui ont collecté les enseignements, et ont composé donc ce qu'on appelle classiquement les entretiens de Confucius. Parfois, on dit encore le terme en latin, les analecta, mais c'est plus rare aujourd'hui, mais ça se disait avant. Donc là, c'est vraiment un écrit qui est pratico-pratique, c'est-à-dire c'est de l'ordre du conseil, c'est de l'ordre de maxime, c'est de l'ordre... Donc c'est assez déroutant pour un lecteur, c'est pas du tout structuré comme un traité, c'est pas du tout un traité politique comme le fait Aristote, bien entendu. Mais néanmoins, si on se plonge dedans, si on s'imprègne de... forme de pensée qui, bien sûr, en Occident ne nous est pas familière, eh bien, on peut quand même en y faire voir les convergences.
Alors, si vous le permettez, pour repréciser un petit peu le contexte pour nos auditeurs, alors, Aristote, on voit un petit peu, mais Confucius, vécu en Chine au 5e siècle.
6e siècle. Il est contemporain de Bouddha en Inde. C'est la même période, et des tout premiers philosophes grecs, vraiment les tout premiers en Grèce.
Voilà, bon, il a vécu à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle avant Aristote.
Oui, un bon siècle avant, oui, tout à fait. Oui, un bon siècle avant.
Donc, il était issu d'une famille noble, mais appauvrie.
Oui.
Et très tôt, il s'est passionné pour les rites et les arts et l'histoire. Il occupait divers emplois administratifs dans l'état dans lequel, duquel il relevait. La Chine était un peu morcelée. Chine, c'était une période de décadence, voilà, entre guillemets, du pouvoir central.
Alors,
d'affaiblissement.
Non, c'est pas une bonne décadence, c'est que le pouvoir central n'existait pas encore. Et ben, c'est avant le premier empire. Le premier empire est fondé au, je sais pas de bêtises, c'est 3e ou 2e siècle, j'ai un doute, avant Jésus-Christ, donc il est 2-3 siècles avant Confucius.
Ouais.
Avant le premier empire. Donc c'est un moment où il y a des différentes.
Il y a quand même la dynastie Zhou.
Oui, voilà, il y a des dynasties, oui, tout à fait, il y a des dynasties, mais il y a plusieurs pays, donc ouais, plusieurs royaumes, disons ça ainsi, plusieurs royaumes, mais qui ne sont pas encore unifiés, que justement le premier empereur viendra unifier, mais c'est quelques siècles après. Donc c'est vraiment la.
Ouais,
mais
il y a
une période qui en effet une période de crise aussi, parce que donc ces royaumes sont.
Sont divisés
un peu même à l'intérieur d'eux, et donc c'est une période en effet de crise politique.
Ouais. Alors il va approcher divers princes pour essayer de les aider en leur fournissant un modèle de gouvernement fondé sur la réflexion qu'il avait menée, orientée vers la vertu, l'exemplarité morale.
Oui.
Il n'aura pas beaucoup de succès, si j'ai bien compris.
Non, 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 il va plutôt essuyer des échecs, en effet, oui, tout à fait.
Et donc il se retire un petit peu et se consacre à l'enseignement jusqu'à sa mort. Quoi.
Il va avoir un certain nombre de disciples que l'on connaît à travers les entretiens, parce qu'ils sont cités, parce que c'est des formes de questions et réponses. Hein, donc il y a un tel qui vient le trouver, qui lui pose une question. Et il, en général, il répond sous forme de maximes assez brèves en général, en tout cas de propos qui sont toujours assez, assez denses et assez condensés, et voilà, toujours un peu sous une forme de maximes, en tout cas de conseils. C'est très imagé, c'est une langue très, très métaphorique aussi. Mmh. Il y a cet aspect-là, bien entendu.
Alors, sa pensée va connaître un succès posthume très important, quoi, colossal.
Tout à fait.
Ça imprègne non seulement la Chine, mais toute l'Asie de l'Est.
Tout à fait. Alors, l'un des piliers fondamentaux de la culture chinoise, de la civilisation chinoise. C'est pas le seul. Donc, on parle classiquement pour la Chine des différentes voies. Le terme de voie, c'est Dao en Chine, donc on connaît ça pour le Daoïsme, le Taoïsme on dit plus classiquement, mais en fait le Dao du Taoïsme c'est une voie parmi d'autres, le Confucianisme en est une autre, et il y a la voie des légistes qui sont un peu plus, des politiques un peu plus centrées sur l'importance de la force, que justement Confucius a tendance à plutôt mépriser, on va dire, en tout cas, dire qu'on ne gouverne pas les hommes justement par la force et par la violence. D'autres seront précisément en désaccord sur ça. Viendra plus tard, mais ça c'est bien plus tard, le bouddhisme, bien sûr, qui sera aussi très important pour la Chine, mais c'est importé d'Inde, et donc c'est vraiment quand même postérieur, mais ça sera bien sûr très très important. Et donc là, on a, à travers ces différentes écoles, et puis un peu les fondamentaux de la culture chinoise, avec aussi un texte qui est un petit peu antérieur, le fameux Yi Qing, qui donne parfois très connu, pas forcément très bien connu, mais quand même connu, la fameuse théorie du yin et du yang, c'est encore un petit peu antérieur. Donc voilà, là, on a un peu des différents éléments qui vont faire la culture morale, et on peut dire aussi intellectuelle, puisque ça va en effet être mis par écrit, et ça va donner toute une tradition, en effet, d'académie, on va dire, d'enseignement qui passera bien sûr par l'écrit. L'un des premiers grands, très grands disciples de Confucius qui va considérablement jouer en faveur justement de l'implantation de la pensée confucienne comme vraiment doctrine fondamentale de la culture chinoise, c'est Mencius. Et Mencius, lui, est contemporain d'Aristote, donc il est un peu postérieur, donc il est un peu moins connu chez nous, parce que il n'est qu'un disciple, si on peut dire, mais enfin un disciple qui va être vraiment très, très important. Et puis, il y aura périodiquement un peu un oubli de Confucius, et puis à nouveau une renaissance, enfin, ça rythme un petit peu donc, l'histoire chinoise. Quand arrive le bouddhisme, et avoir notamment les Tang, la grande dynastie des Tang, là, on est à peu près à l'époque des Carolingiens, chronologiquement, ça correspondrait à peu près à ça chez nous. Donc là, on est vraiment dans une dynastie qui va être très fortement marquée par le bouddhisme. Donc là, le confucianisme est un petit peu mis sous le boisseau, mais il va ressurgir après. Et il reste en fait quand même un fil conducteur majeur.
Ouais, donc il imprègne voilà, plus ou moins vivement, mais voilà, continuellement, en se mêlant à d'autres systèmes politiques ou religieux.
Mêlant, voilà, en discutant, en étant parfois opposé sur certains points. Il y a parfois des oppositions très fortes. C'est donc le confucianisme est vraiment une pensée politique, et donc il mise sur la dimension politique. Le taoïsme est une pensée qui est justement plutôt en opposition à la dimension politique.
Ouais.
C'est plutôt sur les, dans le, la thématique de dire que la vie sociale est, disons, plutôt conventionnelle, artificielle, et qu'il faut prendre un petit peu d'écart. Et ça a beaucoup marqué la thématique de la peinture chinoise, le sage qui est un peu à l'écart dans la montagne. Donc ça, c'est un courant qui est clairement opposé au confucianisme. Mais la culture chinoise va, en effet, embrasser un petit peu ces différents courants qui vont discuter. Ce n'est pas monolithique, comme en Occident, on a aussi plusieurs... plusieurs philosophies, et tout ça va faire en effet, disons, les fondamentaux de la pensée chinoise.
Voilà, plus de 2000 ans quand même d'influence.
Oui,
alors,
oui, plus. Oui.
Rentrons dans le dur, si j'ose dire.
Si je puis me permettre juste une dernière chose, et puis, parce que donc, on dit l'importance en effet de l'écrit, donc il y a cette dimension en effet de philosophie politique. Je rajoute juste un dernier point. C'est que ces invariants, en effet, que s'efforce de dégager mon père, permet aussi d'opposer cette conception de la politique à la politique moderne.
Ouais.
Alors, ça, il le fait, c'est vraiment un thème en sourdine, un petit peu, dans le
sous-jacent,
l'écrit,
oui,
voilà, qui affleure à quelques endroits, sans être développé pour lui-même, mais qui affleure quand même de manière assez précise, notamment dans plusieurs critiques du marxisme. Rappelons que l'écrit de 1988, avant la chute donc, de l'URSS, donc on est encore dans une période où le marxisme est... encore vraiment une importance officielle très très forte, hein. Bien sûr en Chine, mais pas uniquement. Et donc là, en effet, il a quelques pics vers le marxisme, mais plus largement aussi vers Kant. Bon, ça intervient de façon encore plus rare, mais un petit peu quand même. Et à travers eux, envers la philosophie politique moderne. Donc ça, c'est un aspect qui m'a semblé intéressant. Et le deuxième aspect, en fait, on l'a déjà abordé, mais je me permets juste de le préciser, c'est justement la comparaison des cultures, en fait.
Ouais,
c'est que tout l'écrit est en fait est structuré, il prend thématiquement, donc il prend un thème, les vertus, la naissance du politique, c'est le premier chapitre, hein, et il va montrer que sur l'origine, Aristote et Confucius sont plutôt en accord, sur l'évolution, la famille d'abord, le village, bon, Confucius n'en parle presque pas, je crois ou pas, Aristote en parle très peu, mais enfin il le mentionne, et puis il a cité comme accomplissement, donc on retrouve... ces éléments donc en commun. On va le quatrième, le premier chapitre, ouais, il est fondé sur cinq sections. La quatrième, c'est voilà sur la cité, et la cinquième intervient, c'est assez donc représentatif de la composition générale de l'ouvrage, en marquant justement les différences entre Aristote et Confucius.
Ouais.
Et comment justement, donc, les différences vont décider, en fait, ou en tout cas permettre de comprendre la différence, au-delà des pensées donc, d'Aristote et de Confucius, la différence des cultures occidentales et orientales. Là, dans le premier chapitre, la différence, elle se fait sur la conception de la politique. Pour le coup, il y a quand même une différence. Aristote, donc, concevant que la cité... est d'une nature différente de la famille, tandis que Confucius considère la cité, un peu plus comme le ferait Platon du reste, comme une sorte de famille en grand. Donc il y a une continuité plus grande entre la sphère de la famille et la sphère donc, de la cité, c'est pas trop le terme confucien, du royaume, il faudrait dire là, enfin disons de la communauté politique. Tandis qu'Aristote, clairement, il oppose les deux, elles ne sont pas contradictoires, mais disons qu'elles sont de nature quand même différentes. Ce qui inclut des rapports de pouvoir différents chez Aristote, tandis que chez Confucius, justement, non. Et que donc le politique sera toujours compris sous le mode un peu paternaliste. Donc l'empereur sera comme un peu le père. Et donc ça va induire par la suite tous ces rapports de hiérarchie qui sont aussi des choses assez connues par rapport à la Chine. Hein. Le fait qu'on est. On se définit toujours par relation envers un supérieur et que la dimension hiérarchique. Est toujours extrêmement importante. On est toujours le fils de le frère aîné, voilà. Et donc on est toujours pris dans ce système de hiérarchie, de relations qui peut avoir un caractère en effet un peu étouffant Il y a aussi l'ouvrage du reste de Marx, aussi les limites aussi du confucianisme. De ce point de vue-là, sans doute qu'il le dit un peu moins pour Aristote, parce qu'il y a peut-être moins, de fait, mais il y a un peu cette dimension-là dans le confucianisme, d'une politique qui est vraiment dans le... Voilà, il n'y a pas cette idée de citoyenneté qu'on a dans la pensée d'Aristote.
Ouais, ouais.
Qui est quand même fondée, il y a quand même une idée d'égalité, de ce point de vue-là. La thématique de l'égalité, elle est chez Aristote. Pas du tout comme elle est chez les modernes, c'est autre chose, mais ouais. elle y est quand même. Et là, pour le coup, elle n'est pas forcément donc, dans Confucius, puisqu'il y a toujours ce système hiérarchique en place. Et autre aspect aussi, la dimension pareil de liberté. Alors là aussi, c'est thématique extrêmement complexe, puisque la liberté politique chez Aristote n'a rien, pour ainsi dire, rien à voir. En tout cas, c'est complètement différent de la liberté des modernes. Mais il y a quand même cette idée de liberté quand vraiment il dit qu'on ne gouverne pas des hommes comme on gouverne des êtres non libres. Dans la politique. Alors, Confucius ne dirait pas forcément autre chose d'un certain point de vue, puisqu'il a en effet une politique qui doit respecter les hommes. Il y a une forme, disons, d'humanisme, très clairement, donc, dans la pensée quand même de Confucius. Mais la dimension de liberté, c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup moins évidente, voire un peu plus absente, du fait, toujours pareil, de ce système de hiérarchie qui fait qu'on ne peut pas... contredire le supérieur,
ouais.
parce qu'il y a une sorte de respect qui est dû à cette conception quand même très familiale, on peut dire, je pense ainsi, de la politique.
Ouais. Et Aristote mène une profonde réflexion sur les institutions politiques
oui.
et sur leur forme, hein,
on connaît oui.
son classement.
Oui.
Évidemment monarchie, aristocratie
oui.
et démocratie, et puis leurs variantes dégénérées, entre guillemets.
Oui, tout à fait.
Donc il mène une profonde réflexion là-dessus, et il donne une importance forte, c'est-à-dire la forme des institutions.
Oui.
Alors chez Confucius,
c'est beaucoup moins le cas, tout à fait.
Et lui donne plutôt la priorité à la morale personnelle
oui,
des dirigeants.
Il y a une dimension qui est beaucoup plus morale, oui. C'est un petit peu dans la continuité de mon propos précédent, étant donné que la politique est quand même conçue vraiment dans la continuité de l'organisation familiale, d'une certaine logique familiale, disons que le système monarchique s'impose. Et bien entendu, par ailleurs, historiquement, Confucius n'a été confronté au cours de sa vie qu'à des royaumes. Donc il n'y avait pas la pluralité... de systèmes politiques qui pouvaient quand même y avoir en Grèce, puisqu'il y a quand même eu une évolution qui n'était pas forcément toujours du vivant d'Aristote, mais enfin, la mémoire bien sûr se conserve. Aussi que les cités grecques, en grosso modo, ont quand même commencé plutôt par les tyrannies en général et ont évolué, en tout cas pour certaines, vers des formes démocratiques, bon, comme Athènes en tout cas. Mais il y avait bien sûr aussi des monarchies, donc il y avait une pluralité.
Et Aristote s'appuie là-dessus, sur les données
de
l'expérience pour...
Tout à fait.
Voilà.
Et dans
pour induire des principes.
Où sa méthode d'étude de la politique est une méthode, disons, à base empirique, puisqu'on sait qu'il avait demandé à ses étudiants de collecter, je crois, jusqu'à 50 constitutions de cités. Je crois que c'est le nombre qui est donné, il me semble, par la tradition. Dont il ne reste malheureusement que la constitution d'Athènes. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais c'est une parmi d'autres. Mais bon, le fruit de ça, quand même, se laisse percevoir dans la politique.
Ouais.
Donc, il s'appuie vraiment sur l'examen des systèmes politiques existants, des organisations diverses. Et donc, forcément, il part d'une pluralité, en fait.
Oui. On pourrait quand même, du coup, critiquer la pensée de Confucius comme étant une sorte de moralisme. Enfin,
oui, il y aurait sans doute ça. Il y aurait sans doute ça, bien sûr, un peu, oui, tout à fait. Mais c'est, un moralisme, bien sûr, mais fondé, disons que la politique, je crois que mon père a cette formule à un moment donné de l'ouvrage, la politique pour Confucius, ça se ramène à peu près à l'éducation, en fait. C'est le thème de l'éducation et de l'éducation à la vertu qui, en fait... traverse toute l'existence et chacun est amené à essayer d'atteindre la vertu. Ça, c'est vraiment le grand thème de la pensée de Confucius. Donc, c'est en effet une forme de moralisme, oui, si on veut, mais qui est quand même bien compris, si on peut dire. Bien compris. Même alors, si après, ça aussi, c'est, je crois, dans la continuité là aussi de ce que je disais, mais cette comparaison, elle va se faire dans le détail, dans l'ouvrage, jusque dans la conception de la vertu. Donc là aussi, l'ouvrage montre que la conception générale de la vertu, sous des expressions différentes, en fait, elle est fondamentalement la même. Par contre, l'accent mis sur telle ou telle vertu va changer. Et donc là aussi, c'est, non seulement ça fait une différence entre les penseurs, mais au-delà, mon père voit une différence dans les cultures, enfin, en prenant un peu ces deux penseurs comme étant en quelque sorte un peu, enfin, je ne sais pas si symbolique c'est le mot, mais en tout cas comme représentatif de leur propre culture. Donc la culture grecque, plus largement occidentale, pour Aristote, et bien entendu la culture chinoise pour Confucius. Et là, typiquement, la vertu vraiment beaucoup mise en avant par Aristote, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais il y a bien sûr la dimension de justice.
Oui.
La prudence fondamentale, la magnanimité, il y a toute une étude sur le magnanime qui occupe en effet beaucoup, une longue place dans l'éthique à Nicomaque. Confucius va bien sûr mettre beaucoup en avant la piété filiale et toute la dimension là encore d'obéissance et de respect des aînés, de respect qui se traduit aussi bien après sur le plan de la religiosité chinoise traditionnelle avec le culte des ancêtres.
Ouais.
C'est la religion, disons, oui, native, ouais,
mais ça dire, évoque
de la Chine, mais qui n'est pas quelque chose qui humainement est faux.
Mais non, mais voilà. Ça évoque le quatrième commandement. Déjà.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Alors justement, là,
tout à fait. Sauf que c'est peut-être, disons qu'il y a une insistance qui est peut-être un petit peu trop grande. Voilà, et qui fait que c'est peut-être pas là, complètement équilibré.
On pourrait peut-être dire ça. Bon. Mère, oui.
Mais ce n'est pas en effet fondamentalement faux. C'est quelque chose
mais
qui
oui, alors,
touche.
Je voulais arriver là-dessus, humaine, et puis ce sera un peu pour terminer aussi, malheureusement.
Oui.
Donc, ce qui est frappant, c'est que ces deux philosophes, donc très éloignés, dégagent par leur raison les contours d'une loi morale, naturelle évidemment, puisqu'elle n'est pas révélée, donc elle est naturelle.
Tout à fait.
Voilà, universelle,
hein, oui.
Liée à la nature humaine. C'est ça qui est frappant. Du reste, c'est ce qu'enseigne l'Église, et saint Thomas d'Aquin insistait là-dessus. Il existe une loi morale naturelle.
Tout à fait.
Que l'on peut atteindre par l'usage droit de la raison
et
de la conscience.
Tout à fait.
Et donc cette étude comparative plaide quand même à ça, parce qu'on se rend compte que cette morale naturelle que dessine Confucius, eh bien, elle est très proche finalement de cette morale naturelle qui est résumée dans les 10 commandements.
Tout à fait.
Ce qui règle les relations avec autrui, hein, puisque les trois premiers sont entrés à Dieu, mais les autres... Eh bien, finalement, bon, elle se retrouve. Alors, évidemment, on dira que c'est du bon sens, mais elle se retrouve assez nettement.
Mais c'est pas du bon sens qui est. C'est pas sans importance.
Donc, elle se retrouve assez nettement, voilà, d'un bout du globe à l'autre, si je puis dire.
On aurait pu rêver, savoir si les penseurs comme Thomas d'Aquin, justement, qui, bien sûr, se sont beaucoup inspirés d'Aristote, mais pas uniquement, qui y intègrent.
Ouais.
Quand même une large part de la pensée antique. Et s'il avait connu en effet ces textes de Confucius, on peut imaginer qu'il ait pu les intégrer aussi, s'y référer comme il peut se référer, y compris à des auteurs arabes, dans les traductions qu'il a pu bénéficier. Bon, bien entendu, ces textes-là, ils sont arrivés en Occident, bien sûr, après, trop tard. Même si ça ne s'est pas forcément joué de beaucoup, puisque... Vraiment, les missions en Chine, c'est contemporain de saint Thomas, les premières missions. Mais bon, après le temps que la transmission se fasse, ça va venir, bien sûr, bien après.
Ouais, on dit même que les proches de la famille impériale ont été convertis.
Oui,
dès le premier siècle.
Tout à fait.
Et alors, et pour revenir là-dessus, sur cette morale naturelle, il y a un des axiomes de Confucius, hein, je parle sous votre contrôle, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on fasse. Bon, évidemment, c'est un précepte évangélique, hein, qui résume les commandements.
Oui, ce qu'on appelle un peu la règle d'or. Tout à fait, oui.
Donc là, c'est vraiment frappant.
Bien sûr, tout à fait.
Est-ce qu'on peut... Oui, il y a chez Aristote, d'après ce que j'ai compris, une tension quand même vers le divin et une ouverture plus grande, et qui fait qu'il a été apprécié aussi ensuite par les penseurs chrétiens,
tout à fait, hein,
comme un appui naturel,
et
un vase adapté pour recevoir la révélation chrétienne. Bon, chez Confucius, je pense qu'on est très loin de ça.
Alors, c'est très rationaliste chez Confucius. Il n'est pas forcément anti-religieux. Il y a toujours cette idée un peu vague du ciel, voilà, comme un peu principe d'organisation. Mais ça reste très impersonnel, bien entendu, et très vague. Et c'est vrai qu'il se... il y a un peu une tendance à se méfier un petit peu de la dimension religieuse, avec cette idée qu'elle pourrait être plus, un peu irrationnelle. Et donc là, il y a une prudence, une grande prudence. C'est vrai que le confucianisme n'est pas une pensée religieuse. Ce qui, de fait, en fait, de ce point de vue-là, une pensée un petit peu sèche, peut-être un petit peu... un peu trop humaine, comme on aurait pu dire... enfin, qu'on pourrait dire. Il peut y avoir en effet cet aspect-là. C'est pas une pensée qui élève au-dessus de l'homme, selon un précepte qu'on a chez Aristote, qui a dit qu'il ne faut pas se contenter de... il ne faut pas écouter ceux qui disent qu'il faut se contenter des choses humaines, mais il faut tâcher le plus qu'on peut à se diviniser. On trouve ça à la fin d'Éthique à Nicomaque, chez Aristote. Donc, c'est une phrase absolument, bien sûr, extraordinaire, remarquable.
C'est une intuition.
Quelqu'un qui est complètement en dehors, bien sûr, d'une religion révélée. C'est quelque chose qui est vraiment assez frappant. Donc là, non, là c'est clair qu'il n'y a vraiment rien de tel chez Confucius, donc ça c'est sûr. Mmh. Donc il y a des différences, bien entendu, c'est évident. Et l'ouvrage donc, ne les cache pas. Et je pense, peut-être pour terminer, qu'il peut constituer un effet pour des personnes qui ne connaissent pas du tout Confucius ou qui en ont une idée vraiment assez vague, il peut constituer une bonne introduction aussi,
bien sûr.
Il me semble que c'est... aussi une des vertus de l'ouvrage que d'introduire à cette pensée, bon, par ailleurs, est intéressante par elle-même aussi, qu'on peut aborder à travers d'autres études, bien entendu.
Bon. Très bien, merci beaucoup Guilhem Golfin pour
cette
belle présentation de votre père, de son œuvre et en particulier donc de ce livre, un inédit, Confucius et Aristote, édité chez Ora Decima. Voilà, chers auditeurs, nous nous retrouvons sur Radio Courtoisie dans quelques instants après un petit intermède musical avec notre deuxième invité, Guillaume Bernard, pour parler de Carl Schmitt. Vous restez avec nous, Guillaume ?
Je peux rester.
Formidable.
Je reste.
À tout de suite.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Thank you.
Voilà, nous sommes de retour sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, dirigé par Thibaut de Chassay. Guilhem Golfin a fait le plaisir de rester avec nous. Et nous recevons par téléphone Guillaume Bernard. M'entendez-vous ?
Je vous entends parfaitement, Thibaut, et je souhaite eh bien, une bonne soirée à tous les auditeurs, ainsi qu'à Guilhem, que je connais bien.
Bonsoir, Guillaume.
Bon, bonsoir. Parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, historien du droit, des idées politiques. Et alors, comme j'expliquais un petit peu en préambule de cette émission, vous avez fait paraître un article dans le dernier numéro de la revue Le Sel de la Terre, numéro 134, daté de décembre 2025. Donc un article, j'ai trouvé que c'était une très belle synthèse sur la pensée de Carl Schmitt, donc qui est un juriste allemand né en 1888 et qui a publié un certain nombre d'ouvrages, surtout avant-guerre, et qui a eu une influence considérable dans le domaine de la théorie du droit et de la théorie politique. Je vous laisse peut-être le présenter un peu plus complètement, quoique brièvement.
Écoutez, oui, c'est un auteur important. Quelqu'un sur lequel je voulais travailler depuis quelque temps et comme bien souvent l'occasion fait le larron, c'est-à-dire que c'est l'invitation à un colloque qui m'a conduit à mettre au propre un certain nombre de notes et à essayer de ramasser ma pensée sur cette question. Je dois dire que vous me flattez beaucoup en me disant que c'est un article qui est une bonne synthèse, je dirais, de la pensée de Carl Schmitt. Pour ma part, je pense que j'ai proposé une esquisse, je dirais, des grandes lignes de sa pensée. Schmitt est incontestablement un auteur très important du XXe siècle, en particulier parce que il s'est opposé avec, force intellectuelle à deux écueils de la modernité qui sont d'un côté, dans le cadre des relations internationales, je dirais, une forme d'idéalisme, le fait de ne pas vouloir prendre en considération les peuples réels et d'imaginer que les relations internationales sont fondées sur des principes abstraits. Et de l'autre, il s'est opposé à un penseur germanique aussi, autrichien en l'occurrence, Hans Kelsen, qui est, disons, l'un des principaux pères de la notion d'état de droit, qui aujourd'hui, évidemment, étouffe l'expression de la vie politique et empêche, de prendre des décisions sous prétexte, là encore, de principes juridiques abstraits. Et donc, c'est un auteur important qui a été très longtemps relégué, en particulier dans le monde francophone, parce que toutes ses œuvres en allemand n'avaient pas été traduites, relégué, dans les auteurs un peu sulfureux, mais il a été redécouvert, il y a une trentaine d'années, presque dans le fond, à partir du moment où il est mort, en 1985, il a été redécouvert et il mérite incontestablement d'être lu. Pour autant, et c'est l'angle que j'ai pris pour mon article, parce que naturellement, j'ai pas la prétention, de renouveler l'analyse que l'on a pu faire sur un certain nombre de ses œuvres, mais l'angle que j'ai pris a consisté à montrer que, tout en étant un auteur important, incontestablement important dans la modernité, même s'il avait pris des positions contre ce qui est aujourd'hui dominant dans la modernité politique et juridique, il en est resté prisonnier. Voilà. Et ce qui m'a valu un certain nombre de commentaires de personnes qui étaient un peu déconfite, un peu triste que j'ose attaquer Carl Schmitt. Comprenez bien que moi, ma critique, elle ne vise pas à dire qu'il a eu tort de s'attaquer à Hans Kelsen, mais en revanche de montrer que il était resté prisonnier de la modernité et que dans le fond, ça n'était pas un auteur, qui pouvait conduire à comprendre le système politique et juridique alternatif qui est le système classique que l'on a chez Aristote, que l'on a chez saint Thomas d'Aquin ou qu'on le retrouve chez un auteur beaucoup plus récent, un français en l'occurrence, Michel Villet, qui est évidemment un grand historien et philosophe du droit. Alors si vous le voulez, je peux juste égrener en quelques mots, je dirais, les griefs que l'on peut faire à Schmitt. Le premier, bon, évidemment, c'est sur la base de sa fameuse et très grande distinction, je dirais, entre l'ami et l'ennemi. Hein, il fonde le politique sur cette distinction. Ça a l'air d'être quelque chose de profondément réaliste, hein, puisque l'ennemi, c'est celui qui, eh bien, met en danger l'existence du groupe social, du corps social. Le problème de cette distinction, je vais très vite, hein, et on pourra développer si vous le souhaitez, mais le problème de cette distinction, c'est qu'elle conduit à considérer que les affrontements, notamment au niveau international, eh bien, sont une opposition entre des subjectivités, entre des impérialismes, et ça aboutit dans le fond à rejeter la possibilité proposée par la pensée classique qu'il existe un droit commun aux différents belligérants, qu'il puisse y avoir une solution juste qui s'impose bien sûr aux vaincus, si j'ose dire, presque automatiquement, mais aussi aux vainqueurs. Bon, voilà, premier point d'achoppement entre Schmitt qui conteste la modernité, mais qui reste prisonnier de la modernité. Deuxième axe d'analyse, me semble-t-il, c'est, je dirais, son obsession pour le fait de définir le politique comme étant un acte de décision. Dans le fond, il considère que le politique est celui, on connaît tous la fameuse formule, hein, qu'il a mis au début de son célèbre ouvrage La théologie politique, est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. Bon, mais le problème, c'est que dans cette manière d'appréhender les choses, eh bien, il finit par forcément, automatiquement, par définir dans le fond le pouvoir souverain, et je parle en marchant sur des œufs, hein, devant Guilhem Golfin, qui est quand même le grand spécialiste de la notion du pouvoir, de l'autorité, de la souveraineté. Il a sorti récemment un très, très, très remarquable ouvrage dans la collection Critères chez de l'Homme Nouveau.
Oui, bon, nous y reviendrons.
Mais il faut absolument évoquer cet ouvrage et cette collection de manière plus générale qui est remarquable. Il y a chez Schmitt cette idée que dans le fond le pouvoir politique, le pouvoir souverain, eh bien, il consiste à donner et à casser la loi. On retrouve cette idée évidemment chez Jean Bodin au XVIe siècle, chez Thomas Hobbes au XVIIe siècle. Et donc dans le fond, le pouvoir souverain, ce n'est pas celui qui est chargé de restaurer l'harmonie qui a été brisée, de rétablir l'ordre cosmologique qui a été attaqué par les actes des hommes. Non, c'est le fait de produire un ordre politique par une loi qui est le résultat de la décision du pouvoir politique. Et donc là encore une fois, on voit que Schmitt, bien sûr, s'oppose aux dérives de la modernité, mais pour autant, il en reste prisonnier. Et puis, il y a un troisième point, évidemment, que j'ai déjà un peu évoqué, c'est le fait que Schmitt s'oppose très clairement à la pyramide des normes de Hans Kelsen, hein, vous savez, cette théorie selon laquelle, effectivement, les normes doivent s'imbriquer les unes dans les autres jusqu'à une norme fondamentale dont on ne sait pas d'où elle sort, d'ailleurs, hein, la fameuse Grundnorm d'Hans Kelsen. Bon, très bien. Il oppose à ces normes juridiques totalement abstraite et théorique, eh bien, le fait qu'il faut prendre en considération la société, l'histoire, il faut contextualiser les choses, et de ce point de vue-là, là encore une fois, Schmitt est entièrement préférable à ceux qui sont ses opposants, mais pour autant, évidemment, il reste là encore une fois prisonnier de la modernité, puisqu'il va d'une certaine manière, définir le droit comme étant une règle que l'on va plaquer sur le monde réel, et non pas comme le pensaient les classiques, et notamment les Romains, le fait que le droit était inscrit dans une relation d'altérité, et que c'était par l'expérience sociale, la coutume, ou l'expérience judiciaire, ce qu'on appelle aujourd'hui la jurisprudence, que l'on pouvait petit à petit dégager des règles du monde réel à partir des solutions juridiques juridiques et des solutions sociales que l'on avait trouvées, dont il faut déterminer de manière abstraite et a priori une règle générale que l'on va ensuite plaquer sur le monde réel. Et donc, d'une certaine manière, Schmitt est là aussi un défenseur de la modernité par ce qu'on pourrait appeler le volontarisme juridique. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire avec du respect incontestablement pour cet auteur qui est très important, mais disons qu'il est l'une des illustrations de ce que des auteurs qui peuvent nous paraître sympathiques à première vue parce qu'ils ont contester, je dirais, les positions, les doctrines qui, dans la modernité, eh bien, nous hérissent le poil, pour dire les choses très de manière un peu familière, un peu vulgaire presque. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que on doive le suivre jusqu'au bout, parce qu'il reste prisonnier de la modernité. Et donc, ce n'est pas un penseur classique. C'est donc un auteur qui, à mon sens, est très largement préférable à bien d'autres. Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas ce qui permettra de répondre à la modernité et de la contrecarrer. Voilà, je dirais, en résumé, les angles et l'objectif de cet article. Et je dois dire, évidemment, que en quelques pages, en quelques milliers de signes, traité d'une œuvre aussi importante que celle de Schmitt, évidemment, on le fait, avec prudence, avec précaution et avec, une certaine... avec un respect, tout à fait réel pour un auteur comme lui, alors que je dois dire que quand j'ai pu écrire sur le Marquis de Sade, quand j'ai pu écrire sur sur Michel Foucault, je n'avais peut-être pas les mêmes préventions et le même respect pour ces auteurs-là. Vous voyez, la différence de niveau. Et je vous annonce que je vais bientôt publier un assez gros article sur Jean-Jacques Rousseau, et peut-être que ça va vous faire sauter au plafond, cher Thibault, mais j'ai un certain respect pour Rousseau. Je ne partage en aucune manière ses positions, mais je pense qu'il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense généralement. Et c'est peut-être justement parce que l'on n'a pas suffisamment fait attention, à la subtilité de cet auteur, que, on n'a peut-être pas su lui répondre à lui et à tous ses émules. Donc voilà. Pour Schmitt, j'ai du respect intellectuel, mais pour autant, j'en conclus pour l'heure que ça n'est pas un auteur satisfaisant pour ceux qui veulent véritablement renouer avec un monde et une société classique.
Oui, bon, la pensée traditionnelle, quoi.
Exactement.
Ce qui séduit chez lui, donc, si je comprends bien, c'est une certaine hostilité à l'individualisme libéral et puis au triomphe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. Donc effectivement, ça peut plaire à l'homme de droite, entre guillemets. En tout cas, l'actualité... française et internationale rappellent l'importance de ces questions et de ces réflexions. Française avec le pouvoir politique qui semble parfois étouffé par la magistrature, pour faire simple. Mm-hmm. Et puis sur le plan international, un droit international qui est évoqué par certains et qui en tout cas méprisé par d'autres. C'est le retour de la force et des rapports de force. Pur et dur avec des présidents américains, russes, premier ministre israélien, le président chinois. Alors là, il n'y a plus que amis ennemis. C'est le retour de cette distinction comme seul critère d'action politique.
Oui, avec, peut-être une perversion. Je suis pas très spécialiste de géopolitique, donc vous savez, je marche sur des œufs quand je parle de ces questions-là. Mais avec quand même une perversion, c'est que dans la réalité, il y a l'ami et l'ennemi que Schmitt a mis en exergue et sans aucun doute à juste titre, malgré, les conséquences que j'ai indiquées, c'est-à-dire qu'il n'envisage pas l'idée d'un jus gentium, d'un droit entre les gens, entre les peuples, entre les tribus, entre les corps sociaux, et qui s'impose aussi bien aux vainqueurs qu'aux vaincus. Mais on a une situation qui, effectivement, si l'on ne veut pas être hypocrite, repose sur effectivement qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, mais avec une hypocrisie qui est double. La première, me semble-t-il, c'est que on fait semblant de croire que les ennemis de nos amis sont forcément nos propres ennemis, ce que ne dit pas Schmitt, parce que c'est vis-à-vis de son propre corps social et vis-à-vis de la menace que l'ennemi peut représenter qu'il est un ennemi, et pas simplement parce que il y va de, je dirais, de des intérêts de nos amis. Et puis on se trompe peut-être sur le fait de s'imaginer que les ennemis de nos ennemis deviennent nos amis. Hein, on n'est pas forcément réellement amis avec ceux qui sont les ennemis de ceux qui, d'un autre point de vue, peuvent ne pas être nos amis. Et puis, mais tout de même, il y a quand même aussi, je dirais, l'hypocrisie qui consiste à dire, deuxième grande hypocrisie, qui consiste à dire que, eh bien, on va couvrir ça. Alors, non pas des oripeaux, je dirais, d'un droit international, intégré aux organisations supranationales. Non, ça, d'une certaine manière, elles sont quelque peu mises de côté, et peut-être pas, et ce n'est peut-être pas si mauvais que cela, parce que c'était un étouffoir, mais avec quand même l'hypocrisie qui est de dire c'est au nom de la justice que l'on intervient, et en fait on dissimule ses intérêts sous le terme de justice. Ça, il est bien évident que vous soyez Aristote ou un juriste romain, ce serait considéré comme véritablement d'une indignité absolue.
Ouais. Guillaume Golfin, est-ce que vous
oui, ouais, je suis très largement d'accord avec ce que dit Guillaume. On est en plein renouveau, parce qu'on n'a jamais vraiment quitté, mais disons que c'était plus hypocrite peut-être avant, et donc là on est en plein machiavélisme au sens le plus brutal du terme. Bon, c'est pas forcément très étonnant, puisqu'en effet, c'est quand même sous-jacent, à un peu l'ensemble de la politique moderne. On est, disons que la démocratie, l'état de droit, peut-être dire ça ainsi, essayer de, au moins en apparence, un peu domestiquer le machiavélisme pur et dur dans les rapports de force. En fait, l'idée que la politique, en fait, c'est une obéit à une rationalité guerrière. Mmh. C'est la guerre au sens propre. Du terme, ou sous des formes dissimulées, en apparence donc autres, mais qui restent une rationalité guerrière. Et même l'autre grande rationalité moderne, qui est plutôt aussi l'autre aspect du libéralisme, qui est la rationalité économique, en fait, elle est rattrapée aussi par la dimension de guerre économique, et donc c'est en effet aussi un paradigme un petit peu guerrier qui est en jeu. Le droit international, je ne sais pas trop personnellement qu'est-ce qu'il faut en penser. Il y a eu un côté étouffoir, oui, incontestablement. Il y a eu peut-être quand même une tentative, en effet, pour mettre un petit peu d'ordre dans des rapports de force qui étaient déjà le cas, disons, au XIXe siècle, pour prendre ça, parce que le droit international, ça commence surtout au XXe siècle avec la Société des Nations et ce qui s'en suivra. Mais... En effet, ça a toujours été assez hypocrite, puisqu'en fait, c'est quand même l'ordre des puissants, ça a toujours été l'ordre des puissants. Et donc aujourd'hui, ben, les puissants, ils en ont plus besoin, donc, ou ils estiment qu'ils en ont plus besoin, donc ils s'en passent. Ça a au moins le mérite de la franchise, franchise.
C'est un retour au réel pour les Occidentaux qui vivaient un petit peu dans leur utopie.
Oui, alors après, les Occidentaux, il y a Occidentaux, les Américains, ils ont la puissance, nous, on l'a pas.
On la cherche pas non plus.
Mais on a aussi parce que, oui, bien sûr, mais aussi parce qu'on a été.
Pour revenir à Schmitt, le pouvoir politique français actuel, on n'a pas l'impression qu'il ait tellement cette conscience de soi, nationale. Pour distinguer l'ennemi et l'ami, l'ennemi, celui qui veut nous détruire, il faut déjà savoir qui nous sommes, pour savoir ce qui nous menace. Ils sont pas capables de dire ce qu'est la France.
Il faudrait savoir aussi pourquoi ou pour qui gouvernent ceux qui nous gouvernent. Bon.
Si vous me permettez juste un mot, c'est quand vous dites ils ne savent pas qui nous sommes ou qui ils sont supposés être pour, ou disons, corps social ils sont censés défendre, je crains que ce soit pire. Vous savez, dans l'hypothèse, est-ce qu'on est dirigé par des imbéciles ou est-ce qu'on est dirigé par des traîtres, je crains que la pire des solutions ne soit la bonne, c'est-à-dire que il est assez vraisemblable que il y ait une volonté délibérée de fondre les corps sociaux dans un comment dire dans une société recomposée composée d'individus atomisés et indifférenciés. Oui. Donc le fait de ne pas vouloir désigner un ennemi, ça vient aussi du fait que on ne veuille pas justement de cette dichotomie. Mais oui. J'insiste quand même sur le fait que chez Schmitt, il y a une forme incontestablement de réalisme contre, je dirais, la conception idéaliste des relations internationales. Mais pour autant, si cette option, si cette optique est plus satisfaisante que l'idéalisme, il n'en demeure pas moins que cela, comme l'a dit Guilhem Golfin il y a un instant, in fine, ça aboutit à considérer que les relations entre les peuples, on va dire ça comme ça, hein, entre les gentes, diraient les Romains, eh bien, elle est fondée sur des rapports de force. Sont parfaitement réels, il ne s'agit pas du tout de les nier, mais qui interdiraient de trouver une solution juste qui s'impose à tous. Et en cela, il est clair que la modernité à laquelle appartient Schmitt finalement n'aboutit qu'à favoriser en interne le pouvoir souverain en tant qu'il serait un pouvoir de décision.
Oui. Nous devons nous quitter.
Et voilà. Et c'est la même chose dans les relations internationales. Voilà.
Bon. Merci beaucoup Guillaume Bernard, ce sera le mot de la fin. Merci aussi à Guilhem Golfin.
Merci.
Et à bientôt, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chasset, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 5 mars 2026, de 21h30 à 23h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.